Alors bonsoir, donc si vous voulez on va commencer. J'ai l'impression que la salle est un peu surdimensionnée pour un jour de vacances, apparemment. Mais bon. Alors voilà, donc notre propos aujourd'hui c'est de parler des stupéfiants, ou certains stupéfiants, les plus importants on va dire. Alors ça s'insère dans un cycle de conférences qui ont eu lieu les années précédentes sur, d'une façon générale, le cerveau et l'esprit, et plus précisément, les psychotropes, c'est-à-dire les substances chimiques qui agissent sur le cerveau et qui modifient l'esprit, pour faire très simple. Hein, en gros. Et donc là, on arrive en bout de cycle, en somme, avec la dernière catégorie des stupéfiants, et puis tous les problèmes connexes, en somme, qui vont peut-être être débusqués au fil des quatre séances. Hein. C'est-à-dire dans 3 semaines, je crois, on se retrouve lundi, puis le mardi suivant, et puis enfin la semaine d'après, donc dans 4 semaines, un mois, donc en gros, le mardi. Voilà, comme ça fera les 4. Donc pour aujourd'hui, c'est le premier point. Donc essayez de décrire ce que sont les stupéfiants. Et stupéfiants, peut-être je peux commencer à le définir, c'est tout simplement des substances chimiques qui ont un certain nombre de propriétés de modifier le fonctionnement du cerveau et qui, relativement rapidement, entraînent tout un tas de difficultés. Donc, mis à part le plaisir que ça peut donner la première fois, les premières fois. Ensuite, on a une accoutumance, une tolérance, c'est-à-dire que pour obtenir le même effet plaisant, on est obligé d'augmenter la dose. Voilà. Alors, au fur et à mesure où on récidive, finalement, il faut augmenter cette dose pour essayer d'avoir le même effet, même de façon encore plus perverse, bien souvent. La montée dans le plaisir finalement se paye au prix fort, et donc non seulement les personnes ressentent rapidement plus de plaisir, mais assez vite ressentent du déplaisir, et peu à peu les gens qui pratiquent découvrent qu'il suffit d'en reprendre. Alors voilà, donc du coup il y a une espèce de course-poursuite entre arriver à obtenir du plaisir, mais finalement ne pas y parvenir, et donc d'être en dessous du minimum nécessaire pour une certaine joie de vivre. Et donc, même en augmentant la dose, on n'arrive pas à revenir au niveau au moins neutre d'un certain calme. Et donc, on va encore augmenter. Et assez vite, gens qui pratiquent trouvent une autre solution, c'est de prendre une autre substance. J'ose pas dire un autre toxique, mais enfin en gros c'est ça. Et que donc on a une espèce d'escalade à augmenter les doses et en même temps d'augmenter la quantité de substances qualitativement. Et du coup ça s'appelle souvent une polytoxicomanie, si on parle de toxicomanie, ou une polydépendance, si jamais le terme a évolué dans votre esprit, et puis une polyaddiction, si jamais vous en êtes aux termes qui sont utilisés maintenant. Donc déjà, je vous donne cette idée que il y a assez longtemps, on parlait de toxicomanie, puis ensuite, progressivement, on a dit « Oh, ben non, quand même, c'est quand même difficile de considérer que c'est quelqu'un qui est vraiment malade, donc c'est quelqu'un qui est dépendant, et puis maintenant on s'est aperçu qu'il y a d'autres propriétés, que le terme qui est fédérateur, c'est d'utiliser le terme d'addiction. » Alors je reviendrai là-dessus, bien sûr, parce que c'est très important. Une fois qu'on a défini donc ces stupéfiants comme des substances qui vont en quelque sorte demander toujours plus, en gros c'est ça la logique, on a donc ce que j'ai expliqué, la tolérance qui se met en place, d'augmenter la dose. Et bien sûr, comme il y a une prohibition des stupéfiants, parce que vous avez compris que c'était quand même dangereux, alors du coup, il y a des interdits sociaux, et comme ce sont des interdits, il y a un tabou, et donc du coup, il y a cette prohibition qui fait que les gens ayant toujours un malaise, un mal-être, ils cherchent à obtenir ce plaisir, et donc du coup, ils vont avoir recours à des méthodes qu'on va appeler underground, c'est-à-dire sous le manteau, c'est-à-dire finalement ils vont tomber dans un réseau mafieux qui lui prend en charge la production, le transport et puis le commerce en un mot, et donc moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, là ça va être quelque chose qui va en quelque sorte entraîner des sommes assez astronomiques, et pour cela il faut se procurer cet argent, d'où il y a encore d'autres difficultés, mais alors ce soit sur le plan social. Et puis, comme ce sont des réseaux clandestins, même s'ils sont bien connus, répertoriés à peu près, forcément les approvisionnements ne sont pas certains, et donc bien souvent les dealers, puisque c'est de ça dont il s'agit, les dealers sont eux-mêmes peut-être un peu asservis par ce système et donc consomment. Et consommant, bien sûr, ils vendent pour que ça leur coûte pas trop cher, et donc du coup, toutes les fois qu'ils en prélèvent, ils coupent avec des substances. Alors, dans le meilleur des cas, c'est du saccharose, et parfois c'est pas du tout du saccharose. Et donc, bien souvent, ce sont des substances encore plus toxique peut-être que le stupéfiant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui est en cours d'augmenter ses doses ne sait jamais vraiment quelle est la nature de la substance, ni son degré de pureté. Et donc, il fait une estimation, il dit « Oh, il est sympa, il ne m'aurait pas grugé, machin. » Et donc, il dit « Bon, ça doit être à tant de milligrammes, donc je fais telle dilution. » Et puis, parfois c'est une substance pure, alors que le consommateur pense que c'est une substance coupée en deux, quoi, en gros. Et donc, du coup, il a pris deux fois la dose, quoi. Et quand vous en êtes à des doses déjà assez élevées, toujours dans cette histoire de tolérance, hein, d'accoutumance, il faut augmenter les doses, eh bien, il y a un moment où ça n'est plus gérable par l'organisme, et à ce moment, c'est ce qu'on appelle l'overdose. Over, qui veut dire au-dessus de la dose létale, en quelque sorte. Et alors, là, si la personne est bien entourée et pas trop loin d'un hôpital, ça peut se rattraper. Sinon, ben, ça fait mort plus, quoi, en gros, pour faire simple. Alors, à côté de cette tolérance, il y a une autre caractéristique des stupéfiants, c'est que lorsqu'on consomme, finalement, un certain nombre de mécanismes biochimiques se mettent en place qui vont, en quelque sorte, modifier la réception de la substance. Et la conséquence, ça va être que lorsque on s'arrête de consommer cette substance, apparaît finalement une difficulté à supporter l'absence de la substance, hein, puisque on a des mécanismes qui éliminent les substances, hein, aussi bien le rein que le foie que je ne sais quel endroit. Donc, lorsque il y a finalement abstinence, apparaît un état de malaise qu'on appelle le manque. Voilà. Et donc, pour lutter contre ce manque, la personne est obligée de reprendre. Et elle s'aperçoit que plus elle diffère, plus le manque augmente. Et donc, du coup, c'est vraiment un état d'asservissement, d'aliénation, qu'on appelle la dépendance. Voilà. C'est-à-dire, la personne est accrochée à cette substance et finalement ne peut plus s'en passer. Et donc, du coup, doit s'approvisionner à nouveau et reprendre. Et donc, de ce fait, non seulement il faut augmenter les doses, mais en plus il n'est pas question de pouvoir s'arrêter. Voilà. Alors ça fait deux choses qui doivent tout naturellement, il me semble, pour l'honnête homme amener à s'abstenir de faire l'expérience. Voilà. Enfin, c'est ma position, c'est sans doute très réac, mais enfin Bon, quand on sait que la plupart des stupéfiants, je vous en parlais, l'accrochage peut se faire en deux séances, en gros, et même pour le crack, on dit que c'est une. Et bon, vous fumez une pipe de crack et puis vous êtes accroché, et que, bon, ben, c'est évident que même si on a envie de connaître, de faire toutes les expériences possibles et imaginables, on peut le faire avec toutes les autres substances, mais pas avec les stupéfiants. Alors, bien sûr, tout de suite, il faut repondérer, parce que pour tout un tas de raisons sociologiques, le mot stupéfiant est abusif pour un certain nombre de substances qui n'ont rien de stupéfiant. Je pense au cannabis ou aux hallucinogènes, de façon générale, pour parler de la mescaline ou du LSD. C'est pas du tout des stupéfiants, parce que ça ne correspond pas du tout aux définitions, et puis vous en prenez, vous le laissez, ça ne vous amène pas beaucoup de difficultés, mais bon, on reparlera de cette question, c'est plus large, c'est plus délicat à soutenir ça. Donc, pour moi aujourd'hui, on va s'occuper simplement des opiacés, si vous voulez, et puis de la cocaïne, et puis dans la foulée, un petit peu de parler du métabolisme. Alors, opiacé, c'est un terme savant qui en fait découle d'opium, hein, c'est-à-dire ce sont les substances qui sont dérivées de l'opium, donc l'opium et la morphine, pour faire simple. Hein. Et cet opium lui-même, eh bien, est issu d'une plante qui est très, très célèbre, c'est le pavot. Le pavot, pas n'importe lequel, pas celui que vous avez peut-être dans votre jardin, mais celui qu'on appelle, donc dans le terme botanique, papaver somniferum. Donc le pavot qui donne le sommeil, en quelque sorte. Hein. Et donc qui pousse dans différents endroits. Donc on va voir les trois éléments, puis après la cocaïne, hein, si vous voulez, c'est plus très bien. Je ne suis pas très familier avec la boutique, là. Oui, voilà, donc voilà, voyons les opiacés, donc je les ai définis. Donc, opiacés, ça implique que ça dérive de l'opium et que donc ce sont des substances naturelles. Voilà. Et la substance essentielle qui est dans le pavot, c'est la morphine. Alors, il y a beaucoup d'autres alcaloïdes, mais prenons le plus simple, et que donc on obtient cet opium à partir des gousses, des pavots qu'on incise quand ils ont perdu leurs pétales en quelque sorte. Il y a une résine qui s'écoule, qu'on recueille dans des petits flacons, et puis on fait chauffer cette résine sur un feu de bois, et ça vous donne une pâte noire qui s'appelle l'opium, et qui peut être mangé, bu, fumé, etc. Et si maintenant on prend une vision chimiste, c'est possible d'extraire le principe actif essentiel de cet opium. Alors, avec des différentes astuces, mais je crois le plus simple, c'est de solubiliser la morphine par de l'alcool, parce qu'elle est soluble en toute proportion dans l'alcool, mais elle est insoluble dans l'eau. Alors, donc, du coup, une fois que la solution est faite, on rajoute de l'eau et ça cristallise, en quelque sorte. Ça vous donne une poudre qui est, comme on va le voir, ou marron, ou brune, si vous voulez, ou blanche, si elle est très raffinée. Et puis, ensuite, pour aller plus loin, c'est l'héroïne qui porte bien son nom, hein, c'est-à-dire qui vous rend héroïque, c'est-à-dire vous devenez un héros, hein, parce que déjà la morphine permet un certain nombre de propriétés, mais les deux principales, c'est de vous faire dormir, et puis de vous endormir, et puis surtout de lutter contre la douleur. C'est un analgésique en quelque sorte. Mais l'héroïne, elle a un effet bien plus considérable, on verra le mécanisme un petit peu plus tard, Tout simplement parce que d'un point de vue chimique, on rajoute deux groupes acétyles. Ça parle, l'acide acétique, c'est le vinaigre en gros, donc on lui rajoute deux oreilles. On prend un Mickey, puis on lui rajoute deux grandes oreilles, et là, à ce moment, vous êtes complètement boosté, c'est-à-dire, mettons que ce soit 1000 fois plus efficace que la morphine. Alors, voilà un petit peu par rapport aux substances qui nous préoccupent. Donc, le pavot en violet, plutôt naturellement dans cette zone-là, mais ça c'était il y a fort longtemps. Depuis que les Européens ont été arpenter la planète, bien entendu, les pavots ont pu migrer et se retrouver dans les terrains propices, c'est-à-dire en altitude, en haute altitude relativement, et donc on en retrouve maintenant, bien entendu, dans les Andes, et puis même au Mexique, et à beaucoup d'autres endroits. Voilà, potentiellement, le pavot peut pousser dans beaucoup d'endroits où on a et l'altitude et la chaleur, et à ce moment, on n'a pas de difficulté. Et puis, à côté de ça, on va parler de la cocaïne, donc bien sûr, d'érythroxyline coca, c'est-à-dire la plante qui va, le cocaïer, qui va donner la cocaïne quand on l'aura traitée, et qui naturellement se retrouve ici, là, dans les Andes, mais qui ensuite a migré, bien entendu, pour les mêmes raisons, à peu près, sur les mêmes zones que le pavot. Voilà. Ce qui fait que maintenant, il y a des recouvrements de ces deux plantes de départ. Alors voyons voir un petit peu le pavot, comment ça se présente. Donc voilà, vous devez voir, je pense qu'il y a un petit morceau de fleur qui est ici, là, mais là la récolte est mûre, et donc on voit que les coques des pavots là sont prêtes à être incisées, et la brave dame là a justement un petit instrument qui permet, vous voyez là, on a coupé, la résine coule. Et à ce moment, avec son petit godel, peut racler pour pouvoir récupérer ce qui va donner le latex, nous sommes, et qui va donner, avec une manipulation très facile à faire, de l'opium. Alors voilà les boules d'opium qu'on peut trouver sur les marchés, dans les pays en question, producteurs, dans les pays producteurs. Hein, c'est, la plupart du temps, on va dire, sur les lieux de production naturelle, au moins ancestraux, les lieux ancestraux, il y a une coutume de consommer, en quelque sorte, et que, je veux dire, par analogie, on peut dire que c'est la même chose pour la vigne, sous nos climats, on est environné de vignobles, et de vin, mais ce n'est pas un problème parce qu'on sait ce qu'on fait. En gros, c'est-à-dire, bon, si on, là aussi on est raisonnable, on peut goûter un bon vin, et puis bon, même dépasser un peu, pourvu qu'on le fasse une fois par mois, pas plus, bon, ça n'a rien à voir avec du binge drinking, hein, bien sûr. Hein. C'est-à-dire, nous sommes les héritiers des Grecs et des Romains, et donc du coup, on sait qu'est-ce qu'on fait avec du vin, quoi, en gros. Et on sait même aussi que si on dépasse les bornes, ça peut mal se solder, et que si on est accoutumé, parce que bien entendu, c'est aussi accrochant que la morphine ou la cocaïne, eh ben on peut devenir tolérant et dépendant, et à ce moment, on tombe dans ce qu'on appelle l'alcoolisme. Voilà, c'est les mêmes choses. Mais donc là, sur les marchés, c'est toléré parce que ça se fait de façon ancestrale depuis longtemps, et les gens fument une pipe d'opium de temps à autre, ça ne les tue pas. C'est si vous le faites 6 fois par jour, tous les jours, etc. C'est exactement comme les verres d'alcool, en quelque sorte. Voilà, donc vous voyez un peu les boules là qui sont vendues, alors après ben, il suffit de les repartager et puis de pouvoir fumer. Donc voilà un peu les différentes étapes que vous pouvez voir. Donc voilà, une petite boule d'opium, là, voilà. Deuxièmement, une fois qu'on a extrait la morphine, bah, elle est bien souvent sous forme de flacons parce qu'elle est réservée essentiellement à des usages médicaux, en gros. Hein. Donc là, il y a toute une beaucoup de contraintes pour les médecins pour pouvoir les utiliser, mais comme c'est un analgésique, heureusement, depuis une quinzaine d'années, il y a eu une petite révolution qui s'est produite dans la tête de nos chers médecins et qui ont, je vous en parlerai plus tard, qui ont quand même accepté de dire bah oui, il y a des gens qui souffrent de martyrs, j'ai là de la morphine, ben allons-y, prenons le temps de leur administrer un peu de morphine. Quoi, voilà. Mais ça, il y a 20 ans, et même beaucoup plus longtemps, c'était loin d'être le cas. Je reviens là-dessus. Et puis enfin, quand on fait les différentes manips qui sont de l'ordre d'un chimiste, hein, là, c'est pas des bricoleurs, de rajouter les deux oreilles d'acétate, en quelque sorte, ça vous donne la poudre héroïne, hein, qui est donc la brute et puis la raffinée, donc elle est brune ou blanche. Voilà, c'est donc en quelque sorte du pavot, vous obtenez ces trois états qui peuvent être consommés. Donc bien sûr, la morphine, bon, si on se la procure par d'autres voies, c'est possible de se faire une injection, et puis là, bon, le plus simple, c'est encore d'être à l'hôpital, puis d'avoir une pompe, en quelque sorte. Hein. Ça aussi, c'est un acquis qui est aussi récent, hein, relativement. Là aussi, c'est toujours cette révolution qui a été amenée par l'équipe de Jean-Marie Besson, aussi, mais les anglo-saxons l'avaient inauguré bien avant, et donc, la plupart du temps, les patients sont munis de cette pompe et contrôlent la quantité. Voilà. Et ce qui ahurit tout le monde, c'est que les patients consomment peut-être 10 fois moins quand ils ont la maîtrise que quand on leur administre. Voilà, donc c'est-à-dire bon, ben les gens résistent à la douleur et même, bon, on parlera de ça. Hein, c'est très très intéressant de voir que justement même parfois on peut s'en passer. Il y a un certain nombre de choses. Et puis, par contre, l'héroïne, eh bien, comme vous le voyez, là, si vous arrivez à lire, elle peut être soit injectée, donc il faut la dissoudre, alors là, il faut la cuillère, chauffer, machin, enfin, tout un tas de trucs pour se fixer, quoi, en gros, fumer, ou bien sniffer, j'en fais des lignes, quoi, en gros, puis on renifle avec une paille. Voilà, en gros, comment ça se présente. Alors, reprenons un petit peu en détail, donc le produit de base, en somme, hein, c'est l'opium, qui donc chauffé va brunir, même devenir noir en somme, et qui peut être fumé, et qui va déclencher une euphorie, un bien-être, paraît-il. Comme dans du coton, tout devient agréable, s'il y a un peu de musique même, c'est encore plus agréable. Et puis si jamais vous souffrez, c'est peut-être ce qui peut être recommandé d'en prendre quand on souffre, eh bien ça abolit la douleur. Mais les deux types de douleurs, les deux dimensions qui vont nous intéresser là, il y a plusieurs peut-être dimensions à la douleur, mais il y a une dimension physique, c'est-à-dire que vous ressentez sur votre corps, et là, comme par miracle, vous fumez une pipe d'opium, et puis là, la douleur s'éclipse. Alors bon, là, vous avez l'impression de revivre, etc. Et puis, vous avez un deuxième type de douleur, qui est une douleur psychique. C'est une souffrance qu'on ne peut pas se mettre à la place de la personne. C'est elle qui souffre, c'est elle qui décide qu'elle souffre, c'est pas qu'elle décide, mais c'est elle qui constate qu'elle souffre, et ça peut être donc d'ordre moral, de je ne sais quoi. Et bien là, à ce moment, en fumant, à nouveau, vous avez un apaisement et l'euphorie peut commencer à apparaître. Alors tout ça peut vous sembler mystérieux, mais on va rentrer dans les détails la fois prochaine. On comprend les mécanismes qui sont en cours. Et le dernier élément, là, si vous arrivez à le lire, là, voilà, c'est sans flash, c'est-à-dire ça se fait que dans la douceur et progressivement, si vous, vous fumez un peu plus, vous ressentez un peu plus, etc. Mais il n'y a pas ce qu'on va appeler le flash que je vais définir tout de suite après. Donc ça, on va dire que c'est très très doux. On ne dit pas que c'est une drogue douce. Moi, j'ai des témoignages comme quoi, si on était raisonnable, on ne devenait pas accro en fumant de l'opium, mais bon, je n'ai pas d'expérience pour ça. Deuxième élément, donc le principe actif de l'opium, on a pu l'isoler, et ça c'est même Sartoutner qui l'a fait en 1817. Hein, donc comme vous voyez, des pharmaciens français avaient déjà un petit peu fait une sauce qui allait bien, qui avait pu récupérer pas mal de morphine, mais celui qui a vraiment fait le boulot, c'est bien entendu un Allemand, parce que vous devez le savoir, je reviendrai à un moment là-dessus, l'industrie chimique allemande était très très forte. Les Allemands ont supplanté les Français. Nous, on avait tous les atouts au départ, mais peut-être qu'on s'est un petit peu laissé disperser, et puis surtout, on a coupé la tête à Lavoisier, Bon, du coup, ça refroidit un peu, pendant quelques temps, Pendant ce temps, les Allemands, eux, la place était libre. Cette morphine, eh bien, elle a les mêmes effets que l'opium, quand on la prend en intraveineuse. Et on dit qu'elle provoque une dépendance, et physique, et psychique. Alors je dis on dit parce que je vais vous dire par la suite, quand je parlerai des médecins, de comment ils administrent cette révolution à laquelle j'ai fait allusion, on peut démontrer qu'avec la pompe, ça ne donnait pas de dépendance. Alors, c'est-à-dire, la dépendance, elle est sûrement dépendante d'un état particulier de la personne. C'est-à-dire, si vous battez contre un cancer qui vous asticote sans relâche, vous n'êtes pas dans le même état que si vous êtes dans un mal-être permanent et que vous trouvez que la morphine ou l'héroïne vient combler quelque chose qui vous manque. C'est pas du tout le même état d'esprit. En tout cas, c'est ce que j'essaierai de défendre. Donc voilà, dépendance physique et psychique. Donc ça veut dire que la dépendance, c'est que vous ne pouvez plus vous en passer, vous êtes contraint d'en reprendre, sinon s'installe un état de manque. Alors cet état de manque, il peut être supportable pendant quelque temps, mais au fur et à mesure où on s'avance dans la consommation, il devient de plus en plus insupportable, et donc il faudrait recommencer. Et puis, la dépendance psychique, eh bien c'est de s'apercevoir que finalement, c'est pas tant la molécule dont votre corps a besoin, mais c'est plutôt le comportement de prendre cette molécule dans un contexte particulier. Comme j'ai pas l'expérience des opiacés, on peut faire un pas de côté, parce que je pense que tout le monde connaît cette histoire avec le cannabis. C'est-à-dire, vous savez que c'est à l'adolescence, en gros, que l'adolescent est en recherche de tout un tas de conflits internes qu'il essaye de résoudre en fumant du cannabis. Et que ce cannabis, là c'est presque caricatural, ça ne se prend pas n'importe comment. À cette époque, donc à l'adolescence, le cannabis, en règle générale, ça se prend en groupe. Alors, on fait partie d'un groupe. Et puis, il y a des lumières tamisées, il y a des bougies, il y a je sais pas quoi, il y a de la musique, ils font la caisse, tout un contexte qui fait que on est bien peinard dans une arrière-boutique avec les copains et on se fait tourner le joint. C'est ça qui peut le mieux illustrer qu'est-ce que c'est. Même si, dans le cas du cannabis, ça ne joue presque pas la dépendance psychique, mais quelqu'un qui est sous cannabis et qui s'est arrêté de fumer, il se retrouve avec ses copains dans une soirée, il y a un joint qui tourne, ça lui est difficile de pas prendre le joint et de tirer une taffe. en gros, parce que voilà, il y a une petite dépendance psychique qui fait que on va pas décevoir les copains, on va pas, je sais pas quoi, on est en fait tous partis du même club, quoi, je sais plus exactement, le club des hachichins que Théophile Gautier a bien décrit, donc c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est très important de comprendre cette notion de dépendance physique et psychique, parce qu'on va retrouver ça avec la définition de l'addiction. Alors, plus fort, alors encore, c'est bien sûr l'héroïne, qui donc a été synthétisée par Dreiser en 1898, alors là c'est bien sûr Merck, hein, c'est vraiment là le plein rayonnement des groupes chimiques allemands, et qui donc a été expérimenté par beaucoup de chimistes et puis de médecins, et bien sûr Sigmund Freud n'était pas le dernier. Bon, il s'intéressait parce qu'il voulait trouver des nouvelles molécules pour en quelque sorte inscrire son nom, si vous voulez, sur les tablettes, quoi, en gros. Mais bien entendu, lui n'est pas devenu dépendant, mais beaucoup de ses copains le sont devenus. Il a même prescrit à des copains qui étaient vraiment complètement accros, quoi. Bon, je referme, on reviendra dessus un petit peu. Donc, l'héroïne a les mêmes effets, plus un flash. Et le flash, pour donner l'idée, c'est vraiment le flash de l'orgasme, en quelque sorte, si vous voulez, qui est un... peut-être plus intense d'après les témoignages, et donc du coup c'était un pic qui monte à une vitesse incroyable et qui redescend presque aussi vite, et qui donc peut se reproduire assez souvent en quelque sorte, mais ensuite, si vous voulez, je vais vous montrer une courbe qui donne cette idée de flash. Au fur et à mesure que la personne consomme, finalement, elle n'atteint pas le flash. Voilà. Et donc, du coup, il faut augmenter la dose, etc. Et puis, ça devient de plus en plus catastrophique, la gestion de ça, hein, parce que, bien sûr, ça a beaucoup de conséquences sur le métabolisme cérébral et même plus large du corps. Et à un moment, c'est célèbre que les héroïnomanes, si on les appelle comme ça encore, comme si c'était une manie, eh bien, eux ne peuvent plus atteindre l'orgasme que par l'injection. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a que le flash qui est possible. Il est donc à ce moment plus question d'avoir de relations sexuelles, ni rien du tout. Tellement tout est mobilisé, en quelque sorte, le rapport sexuel, c'est finalement se shooter, en gros, je crois. Hein, ça va jusque-là. Bon, donc voilà, bien sûr, ça donne là une dépendance physique et psychique, alors féroce, je dirais, très forte, c'est un peu faible, quoi. Et en France, il y aurait à peu près 300 000 consommateurs, mais enfin, c'est pas forcément des gros consommateurs, hein, mais au moins 300 000 personnes qui l'utilisent, connaissent l'héroïne, et consomme peut-être plus ou moins régulièrement, quoi. Alors je ne sais plus, il y a beaucoup moins, peut-être 10% de gens qui sont vraiment, vraiment consommateurs assidus. Alors bien sûr, comme c'est toujours clandestin, c'est pas possible de faire des statistiques, on a des chiffres longtemps après, voilà, bon, on fait les collectes, mais c'est pas terrible. Et bien entendu, le risque essentiel, c'est le risque de mort par overdose. Et un des effets de la morphine, surtout sous cet angle, ça reste quand même de la morphine, je vous expliquerai comment et pourquoi, et bien, l'effet de la morphine, c'est de provoquer une inhibition, et donc une dépression respiratoire. Donc les centres respiratoires sont progressivement étouffés, et donc du coup, vous ne respirez plus, il n'y a plus d'oxygène, et en plus, le rythme cardiaque descend également, donc à un moment, vous mourrez tout simplement par manque d'oxygène, quoi. Et en règle générale, notre cerveau est équipé d'une multitude de neurones qui n'ont une autonomie que de 2 minutes. Donc je vais rester 2 minutes sans les oxygéner, ben, ils commencent à se détériorer. Et puis au bout de quelques minutes, 10 minutes, mettons, il y a beaucoup de morts, quoi, exactement comme les plongeurs. Les plongeurs en apnée, vous savez qu'il y avait des concours il y a donc fort longtemps, et un beau jour, les pouvoirs publics ont décidé qu'il était interdit de faire des concours de plongée en apnée, parce que vous avez des morts, tout simplement, parce que on peut plonger pendant quelques temps si vous avez une capacité respiratoire énorme, mais il faut remonter si vous êtes assez profond, et il faut faire les paliers, et lorsque vous n'avez plus d'oxygène, vous perdez toutes ces notions et c'est plus possible de réguler, et donc ça a donné beaucoup de morts. Et puis comme ça se prend par intraveineuse, vous avez toujours le risque des maladies infectieuses. Donc les deux principales que vous devez connaître, c'est bien sûr le virus du sida qui peut se transmettre, et puis le virus des hépatites. En gros, là aussi, ça fait combien, 20 ans, même pas, il a fallu que justement il y ait l'épidémie de sida pour que le secrétaire d'État de la santé disent, il n'y a qu'une solution, c'est de distribuer des seringues. Alors c'était, je ne sais plus quelle année c'était, mais enfin c'était dans le gouvernement de Michel Rocard. Et donc le soir même, il a été congédié. Voilà, il avait dit ce qu'il fallait pas dire. C'est vous dire si maintenant, c'est un fait reconnu qu'on a relativement bien moins de contamination par le virus du sida depuis que Michel Barzac a proposé de distribuer gratuitement des seringues, quoi, tout simplement, avec les aiguilles, etc. Voilà, il s'est passé en l'espace de 2-3 ans une prise de conscience que c'était quand même assez criminel de laisser des gens se contaminer, parce que une seringue, il n'y en a qu'une pour toute une collectivité, donc on se passe la seringue et donc on se passe les virus, et donc du coup voilà. Bon, voilà, ça vous donne une petite idée de ces opiacés, comment ça se passe. Alors bon, là ça doit résumer à peu près la situation. Donc les effets de flash pour l'héroïne, en tout cas, puisque c'est le plus efficace, on va dire. La sédation, donc l'essentiel de s'endormir, tomber dans les bras de Morphée, d'où le nom de morphine, en quelque sorte, la déesse du sommeil. L'euphorie, l'analgésie, et puis, quand l'effet redescend, c'est une dépression carabinée, quoi, qui va nécessiter probablement de reprendre. Alors, la dépendance physiologique, la fille, la deuxième colonne, donc voilà un petit peu résumé, voilà, ça c'est fille, ça c'est psy, les différents items qui apparaissent, donc des sueurs, des tremblements, des douleurs, des hallucinations, et puis dans la phase de descente, eh bien, une grande anxiété matinée d'une forte dépression. Et puis la dépendance psy, elle est très forte, donc ça veut dire qu'on a besoin de shoot, en quelque sorte, ou bien de sniffer si jamais elle est sniffée, etc. Et puis, là aussi, ça a été encore plus que laborieux, quoi, pour envisager les traitements. Les traitements avaient lieu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une vingtaine d'années, ça avait lieu partout, en Suisse, en Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis, et nous, non, Bernic, voilà, les toxicomanes, ils avaient qu'à en crever, quoi. En gros, pour faire très simple, ça a été dit, même à l'Assemblée nationale. Voilà. Et progressivement, je pense que Kouchner, il est pas pour rien. Ça s'est assoupli, et donc on a quand même timidement dit, c'est possible d'envisager les traitements que font les pays étrangers, en quelque sorte, on peut s'en inspirer quand c'est mieux, quoi, de sauver ces humains, en quelque sorte. Alors, quelle est la stratégie? Alors là, les deux qui sont autorisés pour le moment, hein, là vous les connaissez, c'est la méthadone et le Subutex. Alors il a fallu du temps pour imposer la méthadone, hein. Parce que nous, alors bon, on a accepté un. Bon, alors le Subutex, qui, pour que la méthadone soit possible, alors là c'était très très long, quoi. Bon, alors, en gros, l'idée, c'est, ok, les toxicomanes se contaminent en se faisant des injections. Ben, il se trouve qu'il y a des substances, dont on parlera encore un peu plus tard, qu'on appelle des opioïdes, c'est-à-dire des substances qui ont à peu près la forme des opiacés, mais qui sont synthétiques. Et alors, ça n'a pas tout à fait la même forme, ça a plutôt à peu près le même effet, ça va interférer avec les récepteurs des opiacés. Voilà, donc c'est, ça n'a rien à voir comme formule, je vais vous les montrer, hein, mais il se trouve que ça va venir en quelque sorte, venir remplacer, nous on appelle ça un agoniste, ça va remplacer la morphine dans ses récepteurs. Et l'intérêt, eh bien, c'est que ça ne se prend pas par injection, mais ça se prend en le buvant. Voilà, alors vous prenez un jus de fruits ou même simplement le produit dilué dans de l'eau, et à ce moment, ben, il n'y a plus la question de l'injection. Ben, le problème, c'est que c'est un opioïde, et donc, bien entendu, ben, ça rend dépendant, ça rend tolérant, etc. Donc, le traitement, ben, c'est dans un système médicalisé, c'est-à-dire une structure, alors qui peut être légère, hein, mais il y a au moins un médecin qui surveille, et puis une infirmière, et donc, tous les jours, ben, les personnes qui sont répertoriées peuvent venir prendre une dose, et ils doivent prendre, si c'est à boire, ils le prennent devant le paramédical ou le médecin, et donc du coup, on voit qu'il a pris, il l'a pas embarqué pour faire du commerce, quoi, en gros. Voilà, alors ça, bien entendu, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que la dépendance est quand même moins raide qu'avec l'héroïne, et donc du coup, on va pouvoir sortir de l'état de manque par tout un tas de traitements que l'on verra par la suite. Puisque vous pouvez déjà le voir, il y a de l'anxiété et de la dépression, qui est. Donc, ben, vous avez déjà compris qu'on prendra des antidépresseurs et puis des anxiolytiques, en gros, tout simplement. Et donc, ben, les cures de désintoxication, ça va durer entre une et deux semaines, trois si nécessaire, mais on peut arriver à ressortir la personne de ses griffes. Mais là, la méthadone et le Subutex, c'est au long cours, c'est-à-dire il n'est pas question encore pour la personne de sortir de cette aliénation. Oui, ça c'est son choix, c'est, je vois, ben, il y a des pressions pour que, il dit, bon, ben, vous pourriez faire la cure. Hein. Voilà. Alors, pour fixer les idées, voilà, j'ai pu récupérer les valeurs marchandes de ces substances. Alors les références, c'est le cannabis, hein. Pour un gramme, alors ça c'est des chiffres de 2010, pour un gramme c'est 5 euros la résine, ou bien si c'est sous forme d'herbe c'est 10 euros, l'ecstasy c'est 5 euros, oui, c'est dans la même gamme, en gros, vous avez pris d'un paquet de cigarettes, en gros, hein. Et puis par contre, l'héroïne, c'est 45 euros, et la cocaïne, c'est 65 euros. Voilà. Et le cours est stable. Enfin bon, ça dépend des arrivages, ça dépend de tout un tas de choses qu'on pourra parler. Alors, donc maintenant que vous voyez à peu près quels sont ces différents opiacés, et qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique, ben voilà, la caractéristique qui intéresse le chimiste, c'est de dire, bon, comment c'est foutu, quoi, hein. Ben voilà les formules de ces substances. Donc d'abord, la morphine. Donc comme vous le voyez, il y a un certain nombre de cycles benzéniques, là, bon, si vous faites un tout petit peu de chimie, c'est pas difficile, hein, comme le benzène, on va dire, là, ici et là. Là, Il y a bien une double liaison, mais là, il n'y en a plus, ou là, en tout cas. Et puis une autre qui est un peu biscornue, comme vous pouvez le voir, puisqu'il y a un carbone, 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 azote, carbone, carbone. Voilà, donc c'est un cycle hétérodoxe, qui n'est pas orthodoxe en tout cas. Et enfin, un autre cycle encore, voilà, qui est un peu plus familier, carbone, 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 et puis oxygène. Voilà. Donc voilà, il y a un cycle avec deux petites oreilles de souris, de l'oxygène et de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'hydrogène. Voilà, des groupes OH, en quelque sorte. Voilà, donc à ce moment, on voit bien que c'est un alcaloïde qui, donc, est un petit peu basique, en somme, et qui va donner les effets de la morphine. Et puis, si maintenant, on bricole et qu'on ajoute des groupes acétyles, alors à ce moment, ça change de molécule et vous passez à ce moment à l'héroïne et vous l'avez ici. Alors si vous prenez ces éléments-là, avec l'oxygène, vous éliminez l'hydrogène, mais vous rajoutez un groupe COO, CO, pardon, là, vous voyez, là, juste ça. Et la même chose ici, c'est toujours la même structure. Et donc, du coup, à ce moment, Mickey Mouse a pris des grandes oreilles, quoi, en gros, des oreilles de lièvre, quoi, en quelque sorte. Du coup, voilà, c'est assez simple pour un chimiste de faire ça. On fait une acétylation, quelques catalyseurs, et puis voilà, c'est pas compliqué. Mais ça donne une propriété physique très différente de la morphine. La morphine, on va dire, elle pénètre dans le cerveau, bien entendu, puisqu'elle est passée dans la circulation générale, qui donne généreusement dans la circulation sanguine, mais dans la circulation sanguine cérébrale, je veux dire, mais dans la circulation sanguine cérébrale, il y a ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire, il y a les vaisseaux capillaires et qui exigent pour que la morphine passe, il faut qu'elle trouve un transporteur. Il faut qu'elle prenne le taxi, en quelque sorte. Et donc, bien entendu, ça se fait, mais doucement. C'est-à-dire, finalement, on a une certaine protection par rapport à la morphine. Par contre, pour l'héroïne, il n'en va pas du tout de même. C'est que, avec ses grandes oreilles, elle devient soluble dans les corps gras. C'est-à-dire, elle devient liposoluble, dans le terme consacré. Et il se trouve que les barrières hémato-encéphaliques sont constituées de corps gras, c'est-à-dire des lipides. Et donc, du coup, elle se dissout, l'héroïne se dissout dans la membrane, et donc, du coup, passe très facilement. C'est-à-dire, bon, la barrière ne sert plus à rien, quoi. C'est l'espace Schengen, quoi. Pour faire simple, quoi. Voilà. Il n'y a pas de checkpoint Charlie. Non, non, là, c'est... Allez-y, vous n'avez rien à déclarer. Ben non, si, si, j'en ai plein la fourgonnette, mais ça fait rien. Allez-y, on s'en fout complètement. Kalachnikov ou autre. Vas-y, Jérôme. Voilà, alors donc, du coup, forcément, quand l'héroïne se retrouve dans le cerveau, ben vous avez les enzymes gloutons qui viennent lui couper les oreilles, quoi, hein, puis qui rétablissent la structure de départ. Et donc, du coup, vous avez donc des doses massives de morphine qui sont rentrées dans le cerveau sans que vous puissiez rien faire, en quelque sorte. Et donc, du coup, ça décuple l'effet, quoi, en gros, et donc vous êtes mille fois plus efficace. Voilà. Donc, du coup, bien entendu, c'est pas tout à fait pareil, quoi, en gros. Il va falloir l'éliminer, mais pour ça, il va falloir du temps, et pendant ce temps, ça va venir saturer les récepteurs, et donc, du coup, ça va donner les effets euphorisants et déprimants, et tout le reste, bien sûr. Alors, bon, là, c'est peut-être un petit peu puriste, là. Ça montre comment... finalement de l'héroïne, finalement on va enlever un groupe acétyl, puis ensuite on va enlever le deuxième, voilà, oui, donc du coup on retombe sur la morphine, et puis ensuite on va voir que finalement cette morphine est éliminée par différentes voies. Bon, peu importe, on arrive à l'éliminer, si vous n'en prenez pas trop, quoi, parce que si vous êtes tout le temps en train de charger la mule, c'est sûr que les systèmes sont saturés, et du coup, ben, bien entendu, Voilà, alors, vous voyez, la morphine sous forme sulfate, 3-10%, éliminée dans les 48 heures dans les urines, 48 heures après l'injection, hein, puis la morphine directe par je ne sais quelle voie, 4-9%, et puis vous avez des sucres qui viennent saturer les groupes OH, et qui donc du coup paralysent la morphine, et donc du coup éliminés là aussi par les urines, 66-70%, et puis il y a encore d'autres conjugaisons qui font que, bon, on a donc, retenez ça, on a différents mécanismes qui viennent paralyser ces molécules. Et le problème, c'est que si on vous fait une prise de sang, parce que vous avez un radar qui, je ne sais pas quoi, s'est déclenché, ben, on dit, oh, ben tiens, vous étiez sous héroïne, quoi, en gros. Hein. Donc, du coup, voilà, c'est qu'il faut longtemps pour l'éliminer. Quoi. Et si vous en reprenez 6 fois par jour, vous comprenez bien que là, les farfadets, ils vous laissent pas repartir, quoi. Hein. Ils vous piquent la bagnole aussi, quoi. Alors, bien sûr, là, au fur et à mesure, toute la biochimie s'est mise en route, on a trouvé des substances qui donnaient le même effet, et puis d'autres qui avaient un effet inverse. Voilà. Alors donc, du coup, voilà, je vous les donne, on en reparlera plus tard, ce sont ces deux substances qui sont des antagonistes de la morphine. Voilà. C'est-à-dire, donc, du coup, vous avez une molécule qui vous donne tous ces effets euphorisants, qui vous font dormir, qui vous donnent de l'euphorie, et puis vous avez des substances qui, si vous les... vous les utilisez, vous les administrez, alors à ce moment, ça va abolir l'effet de cette morphine. Voilà, alors je vous donne les noms parce que ce sont des médicaments, hein, naloxone et naltrexone, qui donc, bon, en gros, sont très très proches de la morphine. Comme vous pouvez le voir, la morphine, vous connaissez ce cycle. Voilà, ici on a un groupe CH3, qu'on appelle le radical méthyle. Et ce radical méthyle, en chimie, bon, on se fout pas mal du radical, donc on l'appelle R. R comme radical, vous l'avez ici, et 6R égale CH2, alors à ce moment, ça donne naloxone, et si jamais c'est cette chaîne-là, avec un petit cycle, alors à ce moment, c'est l'autre antagoniste. Voilà. Et donc, ces deux substances permettent des fois de rattraper des patients qui sont en déshérence, donc on leur administre l'antagoniste pour, comme si c'était une antidote en quelque sorte. Alors, bien entendu, on a trouvé tout un tas d'opiacés, hein. Et puis, en continuant à chercher, on a trouvé des opioïdes, les opioïdes étant des substances artificielles, hein. Alors, bon, ben vous les connaissez, je pense. L'opium, bien entendu, dans les opiacés. Morphine. Alors, à la pharmacie, vous pouvez trouver, si vous avez le carnet à souche qui vous permet de l'obtenir, hein, le Moscantin ou le Skenan, par exemple, ou bien de l'oxycodone, qui s'appelle Eubine, seulement sous la forme du médicament, la dextromoramide, le Palfium, qui a aussi été utilisé dans les années 70 pour lutter contre les souffrances dues au cancer, et puis d'autres qui sont moins fortes, la codéine, les feralgans par exemple, Algis et Dal par exemple, ou bien Antalvic, Propofan, Diantalvic, voilà. Et puis enfin, ben, l'héroïne, là, est beaucoup plus efficace. Et puis parmi les opioïdes, je vous les donne pour que vous l'ayez entendu au moins une fois, ces noms. Donc méthadone, dont on a déjà parlé, mais aussi le Subutex ou le Temgesic, le Dolosal, qui est très célèbre grâce à Henri Laborit, parce que dans son cocktail lithique, il y avait 3 substances, dont le Dolosal. Alors ça, c'est 1952, hein, à Bizerte. Mais c'est ce qui a permis de découvrir les neuroleptiques. Alors donc, bon, bien entendu, le Durogésic, le Fortal, et puis l'Evo-alpha-acétyl-méthadol, qu'on abrège en LAM, tout simplement, et puis l'Antalvic, par exemple. Voilà, alors, donc on a une liste de substances aux formules un peu compliquées, mais bon, c'est pas grave, hein. ça vous donne des molécules chimiques, mais ça vous donne aussi des spécialités pharmaceutiques qui font que c'est possible de les utiliser. Alors donc, on en est à ce niveau-là, c'est que ces opiacés peuvent donner une dépendance et une tolérance, et qui dit dépendance dit que si on arrête de consommer, vous êtes dans une phase de sevrage, enfin de manque, et que ce manque, on l'appelle le manque dû au sevrage. Donc, comment ça se traduit finalement pour l'état de manque? Alors, les trois types de symptômes, des douleurs dans l'abdomen et dans les membres, finalement, donc les muscles lisses et les muscles striés, finalement, qui se mettent à se contracter. Alors, auparavant, vous étiez détendu et tout, parce que justement, c'est un décontractant, mais quand vous me manquez, vous avez une boule de nerfs, quoi, en quelque sorte, et plus vous serrez, plus c'est douloureux. C'est tout simple. Des angoisses avec des insomnies, comme vous n'arrivez pas à dormir, bien sûr, puisque vous avez pioncé, non, mais on vous prête bien volontiers, mais après, il faut rembourser, quoi. En gros, c'est-à-dire, bon, vous avez toujours ce que vous avez emprunté, il faut le rendre, sous forme d'insomnie, mais ces insomnies, forcément, bouligue la brique, en gros, et donc c'est des angoisses de mort, de je ne sais quelles angoisses que vous pouvez imaginer, qui font que vous commencez à dire, voilà, mais elle est où la seringue, quoi, j'ai plus rien, il faut que j'en trouve, quoi, et puis avant il faut que je trouve de l'argent, quoi, donc je vais chez l'épicier et puis je fais un casse, quoi, en gros, vous connaissez le scénario, que c'est très facile de le... Et puis, ces douleurs sur les membres, ça se traduit aussi par un besoin de gigoter, et donc une agitation. Alors, c'est pas à tous les coups, mais quand même assez souvent. Manifestation neurovégétative, c'est-à-dire vraiment sur les viscères, le tube digestif, donc des diarrhées, n'en plus finir, de la sueur, des sensations de chaud, puis tout de suite après des sensations de froid. C'est d'abord le système ortho-parasympathique n'arrive plus à réguler quoi que ce soit. Quoi. Vous allez dire, c'est le maras, c'est le chaos, quoi, en gros. Alors, de cet état de manque, c'est possible d'arriver à se faire aider dans un sens spécialisé, ça veut dire médical, en gros, ou en tout cas une antenne sous une direction d'un psychiatre, d'un toxicologue, en gros. Donc, ce traitement atténue les trois types de symptômes par les médicaments antalgiques, non opiacés, de préférence, ou benzodiazépines, par exemple, le Valium, par exemple, quoi, pour le prendre, des antagonistes morphiniques, naloxone, dont je vous ai parlé, cet antagoniste qui permet quand même de tenir la position pendant quelque temps, tant que les mécanismes de réparation se remettent en route, parce qu'on les a bien détériorés, en quelque sorte. Et puis, bien sûr, on peut adjoindre des produits de substitution. Et la durée, j'ai quelques chiffres. Pour la morphine et pour l'héroïne, une bonne semaine, quoi, vraiment, avec beaucoup de souffrance, mais bon, ça peut se surmonter. Pour la codéine et les opioïdes, le Subutex, 21 jours, pour la méthadone, 49 jours. Voilà, donc c'est vous dire que le Subutex et la méthadone entraînent un état de manque et que c'est assez long à en sortir, quoi. Mais c'est possible. Voilà, alors bon, possible. Je ne sais pas si c'est très important, là, ça reprend, mais c'est peut-être un peu technique, pas trop poussé, là. Donc voilà, la méthadone, comment elle est prise? Alors, coupée avec un jus de fruits, alors pour une fois, là, c'est légal, il n'y a pas de souci, pas autant que vous voulez. Voilà, là, on a le flacon, méthadone hydrochlorique, vous avez, puis vous en mettez dans un verre, et puis vous buvez le verre, et à demain, si vous le voulez bien. Voilà, alors, donc, les produits de substitution, ces opiacés, donc le Subutex, prescrit par les médecins généralistes depuis 1996, c'est pas si vieux que ça, finalement, en cas de dépendance majeure, c'est un morphomimétique, morphino, une faute, c'est-à-dire ça mime la morphine, ça, c'est un opioïde, qu'on appelle la buprénorphine. C'est en comprimé, avec divers dosages, et bien sûr, le corollaire, c'est un carnet à souche. Hein, donc le médecin doit rendre des comptes sur combien il a distribué, ça peut pas être plus d'une semaine, je crois, et etc. Et donc contrôler. De même les pharmaciens, bon, il y a tout un contrôle. Mais bon, voilà, c'est la contrainte, mais il vaut mieux cette contrainte que la contrainte de la substance. La méthadone, diphénylpropylamine, c'est aussi un opioïde, donc sous forme liquide, d'où l'absence de contamination virale, hein, il n'y a pas besoin d'injection. Synthétisé en Allemagne vers 1940, hein, toujours la chimie allemande, là, et il s'est trouvé que le chimiste était malin, il l'a appelé Dolophine, voilà, Adolphe. Quel cadeau, mais bon. Mais c'est un opiacé qui engendre une dépendance dont on se libère par un autre traitement. Voilà, alors, bien entendu, une fois qu'on a bien connu ces différentes substances, bah, on s'est posé la question, mais comment ça se fait que ça agisse dans le cerveau, quoi? Et puis, bon, cette question est venue tout de suite après, mais l'autre question c'était, mais où est-ce que ça agit? Alors, c'est donc dans les années, on va dire, fin des années 60, les techniques de radiomarquage étaient apparues en biochimie, et donc on l'a appliqué en chimie, c'est-à-dire on a l'idée de chercher où est-ce que pouvait agir la morphine, et pour ça, on la marque avec un isotope, mettons carbone 14 par exemple, et qui va être émetteur de radioactivité. Donc du coup, on a cette morphine, on imprègne le tissu, alors ça s'est fait sur le cobaye essentiellement, comme là je vois, et donc on va regarder après avec, on va dire, un compteur Geiger sur les coupes, à quel endroit est-ce que l'on trouve le plus de radioactivité? Ça veut dire que là, il y a de la morphine, ça veut dire que la morphine a été, en quelque sorte, stockée à cet endroit. Et ça, c'est une vieille idée de la pharmacologie, c'est-à-dire dans l'étude des substances chimiques, qui dit qu'une substance chimique ne peut agir que s'il y a la présence d'un récepteur. Donc du coup, on a, en quelque sorte, découvert où se situaient les récepteurs de la morphine, voilà, en gros. Et donc là, bien entendu, c'est le code des couleurs qui est toujours utilisé, c'est-à-dire plus c'est chaud, plus c'est rouge, et plus c'est froid, plus c'est bleu. Donc, c'est le code de la métallurgie, hein, ou du code des hauts fourneaux, et donc, du coup, simplement, on a une activité radioactive, mais on l'a convertie en une échelle de couleurs, ce qui fait qu'au premier coup d'œil, vous savez maintenant que le pic d'activité, c'est là, en gros. Alors on connaît par cœur les structures, et puis qu'en bordure, il y en a beaucoup moins, puisque c'est jaune, et puis qu'ici, il n'y en a point du tout. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est pour le cerveau du cobaye, et puis ça, c'est la moelle épinière de notre cobaye, qui donc a eu sa morphine, machin. Et puis là, on voit que effectivement dans les cornes dorsales, il y a une concentration extraordinaire. Donc là, on sait que c'est là que la morphine agit. Après, il va falloir du temps pour qu'on comprenne comment ça marche, mais c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Voilà, donc on a les moyens de pouvoir mettre la main sur les récepteurs. Et donc, ben voilà, une autre coupe sagittale, le maximum d'activité est ici, c'est noir, c'est là. Donc, l'amygdale, le centre des émotions, pour faire simple, l'hippocampe, la plaque tournante de la mémoire, et puis le thalamus, et puis différents noyaux, et puis encore le cortex limbique ou cortex singulaire antérieur, là aussi un élément essentiel pour les émotions, et la douleur donc est ressentie aussi là. Donc là on a la preuve que vraiment la morphine agit sur le cerveau et agit dans des zones bien particulières Et donc, les zones qui vont déclencher des émotions et la mémoire des émotions, puisque l'hippocampe est marqué et l'amygdale et le cortex limbique sont marqués. Donc, du coup, on commence à comprendre qu'on se souvient de nos douleurs, en quelque sorte, et que donc, du coup, on n'oublie pas. Et quand il y a des signes précurseurs, bien entendu, on sait ce que ça veut dire, et que donc, du coup, on est sensible au contexte, etc. On commence à comprendre un peu mieux comment ça se passe. Et puis, on finit par les isoler, et puis on s'aperçoit qu'il n'y en a pas un, mais deux, trois. Alors, je vous donne les noms, là, vous les avez ici. Trois grandes familles de récepteurs. Les récepteurs mu, en lettres grecques, delta et kappa. Et puis ensuite, bien sûr, on a été plus loin, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs types de capteurs mu, mu1, mu2, mu3, et k1, k2, k3, kappa plutôt, 1, 2, 3, et puis delta, 1, 2, 3, etc. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de facettes, et donc du coup, on commence à comprendre qu'avec les 8 ou 10 récepteurs à la morphine, on commence à comprendre que selon les zones, ce ne sont pas les mêmes récepteurs, et que du coup on comprend qu'il y a beaucoup d'effets différents, parce que ce ne sont pas les mêmes structures, et qu'on commence à comprendre que l'euphorie est donnée par une certaine structure, et puis la sédation par une autre, et puis les autres effets sur d'autres structures. Voilà, ça commence à prendre la lieu. C'est début des années 70. Voilà, alors là on s'aperçoit sur le cortex que le premier des récepteurs, de la famille des récepteurs, mu comme morphine, en gros, c'est le cortex. Voilà, trois étoiles. Voilà, c'est pas le mouvement 5 étoiles, mais c'est trois étoiles, c'est déjà pas mal. Il y en a un peu moins de delta et du kappa. Et puis l'amygdale, donc là, l'organe essentiel à l'émotion et donc à la douleur, en gros, ou à l'euphorie, tout aussi bien, eh bien, là aussi, trois étoiles. L'hippocampe, donc la mémoire, voilà aussi beaucoup. Le noyau accumbens, dont on va parler, alors là vous pouvez noter qu'il y en a 4 pour mu, 4 pour delta et 3 pour kappa. Alors là, autant vous dire, le striatum, c'est des noyaux un peu nombreux qui sont au centre de l'encéphale et qui pilotent la motricité. Et donc, du coup, ça va commander les muscles. Et donc, on comprend que quand vous avez des douleurs sur le muscle, c'est que là, ces récepteurs sont en manque et qu'ils font savoir. La substance noire, on y reviendra aussi, et la substance gélatineuse, là aussi, trois étoiles pour la morphine. La substance gélatineuse, c'est cette zone qu'on a vue chez le cobaye, là, qui avait sur les cornes dorsales une grande concentration. Voilà, c'est l'entrée dans la moelle épinière, c'est là que les fibres nociceptives font relais, et donc du coup, il y a des récepteurs, et du coup, on commence à comprendre comment ça se goupille. Alors, là, ça anticipe un peu sur ce qu'on va voir par la suite, mais parce que, bien entendu, il faut tenir compte de ce que je vous dirai après, les encéphalines, mais on s'aperçoit que les récepteurs mu sont presque spécifique à la morphine, en donnant des effets antinociceptifs, dépression respiratoire, bradycardie, c'est-à-dire un rythme cardiaque qui se rétrécit de plus en plus, brady ça veut dire court, et puis un effet sur la pupille. Par contre, les deltas, c'est plutôt ce qu'on verra après, des encéphalines, qui sont aussi antinociceptives, aussi euphorisantes, et qui peuvent provoquer des convulsions. Et puis, kappa, c'est les benzomorphanes, les dinorphines, antinociceptifs, des effets endocriniens et les sédations. Voilà, et du coup, vous retrouvez toute la palette de l'état de manque, finalement. On le reprendra. Donc là, je suis bavard, mais il faut quand même que je vous dise d'autres choses sur la cocaïne, quand même, parce que sinon, je n'y arriverai pas à avancer trop. Donc, à côté de la morphine, donc on a un autre stupéfiant, c'est la cocaïne, qui donc est issue d'une plante qu'on appelle le cocaïer dans le langage populaire, mais qui en latin s'appelle Erythroxylon coca, et qui a beaucoup de dérivés, enfin beaucoup, non, c'est toujours de la cocaïne en fait, qui a été isolée par Albert Niemann en 1960, hein, donc toujours la chimie allemande, hein, là, qui fait les délices de Sigmund, hein, et Sigmund a cru qu'il avait vraiment le bon plan, et il était jeune médecin là, hein, à cette époque, 1860, et il a écrit un article qui s'appelle Uber Coca, justement, où il fait la revue exhaustive de la cocaïne, tout simplement parce qu'il est allé voir Merck, et puis il en a demandé 10 grammes, quoi, en gros, puis de temps en temps, il se bourre le pif, et bon, c'est... Et alors, bon, bien entendu, son copain, qui était en pleine déchéance, parce qu'il était bourré d'héroïne, il dit, oh, j'ai trouvé un truc qui va te sortir de là, boum, tiens, la cocaïne. Et le pauvre, je crois qu'il en est mort, quoi. Hein. Et donc, du coup, voilà, bon, c'est pour vous dire, il y a eu une grande illusion... en fin de ce siècle, 19e siècle, au début du 20e siècle, on a misé sur la cocaïne, et ce qui nous reste, ben c'est pas très brillant, parce que c'est Coca-Cola. Alors donc, vous entendez le coke, c'est la cocaïne. Voilà, donc, plusieurs formes. Le BPC, c'est en fait la pâte base de cocaïne, qui est brute, quoi, assez brute. La cocaïne acide chlorhydrique, donc chlorhydrate de cocaïne. Et puis enfin, sulfate de cocaïne, qu'on appelle le crack. Voilà, donc en gros, comment ça se présente. Donc, ben, je vais essayer de vous le montrer rapidement. Voilà, alors je ne sais plus, dans une des serres du parc de la Tête d'Or, il y a un cocaïer, mais j'ai perdu la référence, alors cherchez, vous le trouverez, il est mignon, il ressemble assez à ça. Voilà, alors bien entendu, à Bogota et ailleurs, sur les marchés, ben, il y a des gros ballots qui font 500 kilos de feuilles, tout simplement, et les Indiens, les Amérindiens, ben, bouffe traditionnellement la feuille, la mâche plus exactement, toute la sainte journée, hein, parce que c'est un stimulant, parce que là on change de registre par rapport à la morphine qui vous endort, là on est plein bourre, et pour faire les travaux à 4000 d'altitude, ben, les Incas avaient inventé ça, quoi. Leurs esclaves, ils les bourraient de feuilles de coca, et en plus c'est anorexinogène, donc du coup vous n'avez pas faim, donc bon, vous bossez comme un Inca toute la sainte journée, et en plus vous mangez rien, bon c'est vraiment le pied, quoi, il faut pas être espagnol pour arrêter ça, ça va tellement loin, bon je fais un tout petit peu d'histoire, hein, que vous voyez que même dans les poteries on retrouve la chic, en somme, hein, voilà, là, ici, ou bien là c'est encore pire, hein. Voilà, donc vraiment là c'était ancré. Et puis, comme je vous dis, cette folie de la coca, c'est un Corse là qui a trouvé rien de mieux que de faire un vin, Mariani. Voilà, bon. Et voilà la pub qui a fait le tour du monde en quelque sorte, en vendant des quantités de bouteilles de Mariani. Popular French Tonic Wine, hein, fortifie et rafraîchit le corps et l'esprit, c'est vous dire, hein, là, bon, il y a les pommes main morte, hein, là. et donc, bah, tout le gratin s'est mis à se jeter sur le vin de Mariani. Alors voilà, là, bon, on va pas lire la bafouille, mais là, c'est Émile Zola, finalement, hein, qui écrit, ah oui, oh là là, oh, ne plus être malade, ne plus souffrir, mourir le moins possible, etc. Bon, et complètement délirant, quoi. Vraiment, c'est vraiment l'inverse de j'accuse, quoi. En gros, là, c'est vraiment je fais les louanges. Et puis, bien sûr, tout le monde a voulu essayer. Alors, même Anatole France, hein, bon, là aussi, il fait son petit gribouillon. Et même le pape, je veux dire, ah bon, ils se défoncent tous. Ils se peintent à longueur de journée dans les clubs, partout, quoi. C'est la curie, quoi. Hein. Et puis voilà, bon, voilà, 1894, voilà la pendulette. Coca-Cola, le tonique idéal du cerveau, en gros, avec de la coke, en un mot, vraiment une grande quantité. Puis après, ça a un petit peu changé, 1903, elle est décocaïnisée, mais on met des trucs plus dégueulasses encore. Hein. Alors vous savez que maintenant, on commence à découvrir que c'est cancérigène, etc. Simplement le sucre, machin, et tout le reste. Quoi. Bon voilà, c'est pour vous dire si ça dure depuis quelque temps, Coca-Cola. Voilà, je vous ai parlé du beurre coca, là, de Sigmund. Bon, c'est bien fait, mais bon, oui, c'est un expert. Alors, bien sûr, quand on purifie cette cocaïne, bien sûr, on peut la raffiner, donc ça donne une poudre, en quelque sorte. Et il y a plusieurs façons de la prendre. Et au début du XXe siècle, c'était assez simple, là, vous voyez. Vous en mettiez un peu dans le creux. Là, vous avez un petit creux, normalement. Et hop, voilà. Et puis, après, ça s'est raffiné autrement. On va dire, les cartes de l'industrie, ou bien je ne sais pas comment les appeler, oui, les hommes de théâtre, disons, hein, puisque bon, faire les représentations, tant vous dire, ça vous pompe, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une ligne de coke. Alors pour ça, maintenant, pendant encore longtemps, on utilisait la lame de rasoir, mais maintenant, ou bien on est barbu, ou bien on est rasé, mais à la tondeuse. Donc, c'est la carte de crédit, tout simplement. Alors on l'éparpille, on ramène. Et puis après, une paille, et c'est fait. Quoi. Alors, les pailles, ça se trouve facilement, quoi, en gros. Et puis, si c'est plus raffiné, à peine, hein, sulfate d'ammonium ou sulfate de je sais plus quoi, on obtient des cristaux, et ces cristaux s'appellent des cailloux. Et là, vous avez des variétés de crack en ce moment, ça s'appelle le crack et beaucoup d'autres noms. Et ce crack se fume dans des pipes, donc vous avez un modèle ici, donc on le met ici, le caillou, avec un briquet, on lui amène de la flamme, et puis là vous avez un tube qui est très long et qui a de l'eau qui barbote, etc. Enfin bon, il y a tout un dispositif. Bon, il y a beaucoup de boutiques à Lyon que vous pouvez voir comment ça se passe. Alors bon, là aussi, pour un chimiste, c'est important d'avoir la formule. Ben là, voilà comment elle se présente. Donc là, un premier cycle, là, un second cycle, finalement, puis un troisième, avec un pont oxygène. Et puis, ça, c'est la base, hein, donc c'est la cocaïne base, qui, elle, peut être fumée, en quelque sorte. Et puis, vous pouvez rajouter de l'acide chlorhydrique, ça donne un chlorhydrate de cocaïne, qui, elle, est soit sniffée, inhalée, si vous voulez, soit injectée. Alors, bien entendu, sur place, en Bolivie, par exemple, hein, mais on pourrait dire Colombie tout aussi bien, eh bien, on récolte la feuille de coca. Et puis là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, vous avez tous les ingrédients. Alors j'insiste un petit peu parce que ça va être essentiel pour comprendre, hein. Tous les ingrédients qui sont nécessaires pour pouvoir faire la transformation en pâte base. Alors je vous les lis, même si ça vous ennuie, retenez simplement la musique, hein. Chaud, carbonate de sodium, ammoniac, acide chlorhydrique, kérosène, acide sulfurique, permanganate d'ammoniac. Voilà, alors bon, non, ça n'a pas d'importance, mais ça vous explique certaines photos que vous voyez quand il y a les commandos de l'armée américaine ou des Contras ou des je ne sais quoi qui font cramer les stocks. Hein, vous trouvez toujours les bidons de kérosène, c'est comme ça qu'ils repèrent les labos en quelque sorte. Hein, voilà. Puis la deuxième idée que vous devez garder, c'est que ça, c'est pas les paysans andins qui peuvent. Ils peuvent non seulement manipuler, ça à la limite, ça s'apprend, mais les fabriquer. Et l'ardin, là, ça renvoie à une autre question. Qui les fournit? Et là, ça va faire mal quand vous allez apprendre qui c'est qui fournit, en gros. Alors, je continue. Pour passer à la cocaïne base, donc, hein, on est en Bolivie, là c'est au Brésil par exemple. acétone, éther, toluène, ammoniac, permanganate de potassium. Alors encore, vous avez une liste qui augmente encore. Ce qui fait que, pour les petits pays, je laisse pour la fin, pour la bonne bouche, les gros pays, les deux gros pays, qui sont leaders, soit sur le continent américain, soit sur le continent européen, comment ils font pour savoir, comment le FBI fait pour savoir qu'il y a peut-être bien un labo quelque part? Bien, il suffit de faire les entrants chimiques et savoir qui commande quoi et où ça va. Voilà, ben avec des listes de produits comme ça, allez-y, trouvez de l'acétone, de l'éther, de machin, macache. Par contre, les réseaux mafieux, eux, ils savent faire, mais simplement, ça fait tourner des compteurs. On est un peu plus loin, où on est sorti de la jungle, disons, hein, pour faire simple, et bien à ce moment, on va pouvoir purifier la cocaïne. Alors à ce moment, voilà ce qui est nécessaire. Acétone, éther, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, toluène, chloroforme. Voilà. Donc c'est-à-dire, bon, c'est pas des produits très difficiles à fabriquer, mais quand même, faut quand même avoir une industrie chimique, en gros. Alors bien entendu, chaque fois, ça doit être le prix au kilo, en dollars, et on voit que ça monte insensiblement, et que ça part. Qui en Colombie, qui aux États-Unis, qui en Europe, bien sûr. Et quand l'Europe fait un peu la fine bouche, ben on passe par l'Afrique. Et puis on remonte par le Mali, et puis l'Algérie, et puis Marseille, tout droit. Pof, voilà, alors soit l'Espagne, soit Marseille. Et puis sinon, ce sont les vols, ou bien les bateaux, les voiliers, les je sais pas quoi. Enfin bon, voilà, vous commencez à comprendre que finalement, il y a des réseaux qui sont bien organisés avec des prises de temps en temps. Les douaniers viennent un petit peu perturber ce beau monde. Alors voilà les effets là pour un peu les comprendre. Hein. Voilà, quand vous prisez de la cocaïne par exemple, vous la sniffez, ça vous donne une montée très forte de bien-être, on va dire, et puis ensuite ça va redescendre et là vous êtes en piqué. Au bout d'une heure, une heure et demie, là, vous risquez après de descendre en dessous si vous avez déjà une grande pratique. Et du coup, il va falloir céder à la tentation quoi, d'en reprendre. Quoi. Et quand vous l'avez injecté ou fumé, alors à ce moment, le décours est tout à fait différent. Là, la montée est presque le double, mais la descente se fait très rapidement. Vous êtes en montée comme ça, et puis ensuite, vous redescendez. Et là, c'est vertigineux, quoi, la descente. Hein. Et du coup, vous valez plus un centime, plus rien, et du coup, c'est la déchéance. Quoi. D'où les angoisses, d'où tout un tas de choses. Où est-ce que ça va s'arrêter, quoi. En gros, bon, vous passez à travers le plancher, quoi, en gros. Donc les effets, j'ai l'impression un peu de peut-être rabâché, mais enfin, il faut bien le voir un peu quand même. La prise donc est sniffée à l'aide d'une paille, ou fumée avec du tabac, ou bien injectée en sous-cutanée ou intraveineuse, diluée dans des boissons, et on a à peu près 850 000 personnes qui utilisent un petit peu ces prises, quoi. Les effets, donc, le flash, l'euphorie, le bien-être, la confiance en soi, même c'est ça qui, hein, c'est Rambo, quoi, en gros, hein, qui débarque, quoi, hein, vous avez les films, alors les films américains nous en donnent à l'appel, hein, les gens, ils sont nés bourrés de cocaïne, quoi, hein, bien entendu, une excitation intellectuelle, physique et sexuelle, bien sûr, hein, donc c'est Rambo, voilà, 1, 2, 3, 4, etc. Le problème, c'est que vous avez eu le décours, ça a une fin en une heure et demie, deux heures, ou je ne sais combien. Quand vous êtes plus novice, c'est encore plus rapide. Donc du coup, la descente, retour à la réalité, dépression et adynamie. C'était bon, vous n'avez plus de dynamisme, plus rien. Vous êtes une loque, quoi, en gros. Mais... Alors vous étiez Superman, d'un coup, vous êtes Chief Moll. Bon, ben, c'est sûr que... Vous ne pouvez pas paraître devant les copains, et donc du coup, il faut faire quelque chose. Et la tolérance, s'active à faible dose, quelques milligrammes, mais provoque une tolérance. brièveté de l'effet speed. Speed, donc, c'est le sens des amphétamines, c'est-à-dire on est très 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 agité. Et, bon, c'est, bon, j'avais un président qui était comme ça, un peu speed, hein, même lui c'était la Ritaline qui nous calmait, mais bon. Donc l'effet speed augmente, et puis il faut répéter les doses, et donc là, ben, on a toujours le risque de l'overdose, quoi, en gros, hein, là aussi. Donc la dépendance physique est dite faible, mais la dépendance psychique est forte et intermittente. Voilà, c'est-à-dire, bon, on ne sait jamais sur quel pied danser, donc c'est inconstant. Bon, alors quand il n'y en a pas, c'est plutôt bien, mais des fois, il y a un passage à l'acte à avoir. Pas d'accident au sevrage brutal, on n'en meurt pas, en gros, hein. Besoin impérieux du produit, dépression et asthénie. Et l'overdose, eh bien, ça donne des mouvements anormaux, des convulsions, une hyperthermie, troubles cardiaques, infarctus, accès psychotonique aigu, paranoïa, idée délirante, voilà, c'est-à-dire, je vous dis, c'est Rambo, quoi, hein, ouais, c'est-à-dire, et puis, alors, à ce moment, passage à l'acte, et là, bon, il y a des fusils mitrailleurs à disposition, hein, il suffit de le demander, de mettre une poignée de dollars, vous connaissez, je suis en train déjà de parler de la chimie, là, en gros, hein, attends, Dieu sait si Obama essaye de bloquer cette histoire, par moyen, ben, oui, ben, vous le transposez sur le sujet qui nous intéresse, et c'est bon, alors, je continue un tout petit peu. Guerre à la drogue, oui, mais c'est comme pour les paradis fiscaux. On en a quand même besoin. Alors donc, du coup, bon, on va emmerder les autres, mais soi-même, on ne se l'applique pas. Et après, on va se désoler, on va obliger les autres pays de mettre le cannabis comme un stupéfiant, machin. Bon, voilà, c'est pour vous dire un peu la folie galopante. Eh bien là, quand vous êtes dans ces accès psychotiques et avec des troubles cardiaques et tout, ben là c'est urgence, hein, là c'est vraiment, il faut appeler le SAMU, quoi, hein, sinon c'est vous qui êtes en procès, gros. Pathologie chronique, donc bien sûr, à force de sniffer, ben ça provoque des constrictions des vaisseaux sanguins, des narines, quoi, et vous pissez le sang, quoi, en gros, hein, non seulement ça se contracte, mais à un moment vous les dissolvez, et donc du coup, nécrose de la cloison nasale, cachexie, apathie intellectuelle, décompensation intellectuelle. Ouais, c'est-à-dire, bon, je dis, c'est l'idée d'une loque, quoi, hein. C'est-à-dire, à un moment, on est dans la toute-puissance, et dans un moment plus tard, vous ne valez plus rien du tout. Donc, c'est psychiquement très, très difficile. Le crack, donc, hein, les cailloux ou cristaux de crack obtenus par ajout de bicarbonate de soude ou bicarbonate d'ammoniac à la cocaïne et qui sont brûlés, inhalés, on les renifle, quoi, en gros. Hein. Les effets flash fulgurant, euphorie, sensation de toute puissance, encore, voilà, alors là, ben, c'est ça, quoi, vous avez, comme il y a besoin de se procurer de l'argent pour faire un hold-up, ben, vous fumez du crack, quoi, et alors du coup, le coup est parti tout seul, je sais pas quoi, mais on le voit tous les jours à la télé. Et derrière, vous lisez entre l'héroïne, la cocaïne et le crack, surtout, dans les squats et autres, vous en avez, mais des kilomètres incroyables. C'est écrit noir sur blanc. Donc, sensation de toute puissance, agitation psychomotrice, réaction impulsive et agressive. C'est la paranoïa, quoi, en gros, c'est le passage à l'acte, bon, je tire sur l'armement, et puis, des rafales, les risques, bien entendu, ce sont les troubles cardiovasculaires, puisque c'est inhalé de préférence, hein, donc les troubles cardiovasculaires et les poumons exacerbés, overdose, bien sûr. Donc, ben là, ça récapitule un petit peu tout ça, hein, je crois, oui. Et les traitements, alors, là, bon, la dernière colonne, alors, hein, pour le traitement, ben, on utilise pour la cocaïne, tout comme pour le crack, en gros, on essaye de faire la même chose que pour la, la morphine, on utilise des opioïdes, c'est-à-dire bon, ben, la méthadone, Subutex, je ne sais quoi, et puis, comme il y a beaucoup de dépression, parce que je dis, il y a une dévalorisation insupportable, on remonte un peu les bretelles avec des antidépresseurs. Voilà. Et pour le crack, les effets sont exacerbés, et donc du coup, on utilise le même traitement, en gros, hein, plus une psychothérapie, plus beaucoup d'accompagnement pour renarcissiser le sujet, en quelque sorte. Bon, voilà, alors, bien sûr, comme la pupille est très contractée, la myosis, et donc du coup, faut pas se faire repérer par les poulets. Ils mettent des lunettes noires, bien sûr. Donc tout de suite, dans tous les films, vous devez voir, quand vous voyez les lunettes noires, tout de suite, ça vous dit, bon, il cache ses pupilles, voilà. Et alors, ce qui est dramatique, c'est que, c'est surtout chez les femmes, alors, non pas parce que c'est les femmes, mais c'est que bien souvent, les femmes d'un certain post-adolescence sont enceintes. Et donc, du coup, vous pensez bien que le fœtus, l'embryon et le fœtus, ont des quantités colossales, forcément, hein, puisque vous ramenez la dose prévue pour un adulte, vous le ramenez à quelques milligrammes d'embryon ou quelques grammes de fœtus. Bon, c'est terrifiant parce qu'il devient dépendant et donc à la naissance, il y a des pires ennuis, quoi. Hein. En gros, les fausses couches, les AVC, morts subites, etc. Alors ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus angoissant de savoir qu'il y a des populations jeunes qui sont sous l'effet du crack et de la cocaïne et que donc c'est vraiment un problème énorme. Peut-être là. C'est les cours. Alors, ça ne me dit pas grand-chose, là, mais en 94, c'était ça. Je vous donne juste les chiffres. Hein. En partant du Pérou, de la Bolivie, c'était $300 la tonne de feuilles. Et puis, on tripote un peu avec les différents ingrédients dont je vous ai parlé, $150 le kilo de la pâte base. Et puis ensuite, on progresse vers la Colombie, on se rapproche de la côte, en un mot, des bateaux ou des avions, des camps de décollage, en gros, des pistes, hein, en rond. Alors ça devient toujours risqué, de plus en plus, bien sûr. $2,250 du kilo pour la cocaïne. Et puis, ça parvient quand même à Miami Beach, ou quelque chose d'approchant. Alors à ce moment, c'est $15,500 le kilo de cocaïne. Quand ça arrive à New York, $25,000 le kilo de coke. Et enfin, quand c'est envoyé là-bas chez les Richards, c'est-à-dire en Europe, et vous voyez les centres là qui sont plus ou moins les cibles, eh bien c'est $35,000 par kilo avec les mules, etc. Voilà, ça vous donne la progression, c'est-à-dire ça coûte rien du tout comme les feuilles, la pâte, pas grand-chose, et au fur et à mesure, vous avez des culbutes, c'est pire que Spanghero, quoi, avec la viande de cheval, quoi, en gros, hein, c'est un peu plus risqué, vous me direz, mais voilà, donc bien sûr, on peut pas parler de la drogue si on parle pas de l'argent, quoi. Et donc pourquoi des mafias se branchent dessus et ont le monopole, c'est que c'est super juteux, et c'est juteux, donc du coup, c'est un petit peu difficile de l'enrayer. Alors, je sais pas, je voudrais pas abuser. Je sais pas si on pourrait peut-être s'arrêter, parce que le mécanisme, je pense qu'on le verra la prochaine fois. Je regarde un peu où j'en suis. Oui, je pense que ça devrait aller, parce que si vous avez des questions, je vais bien essayer de répondre. Hein.